J'aimerais parler ce matin sur Déborah, une mère en Israël. Juges chapitre 4, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et il habitait à Haroshet Goyim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la maison d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali. Et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kadesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsa'anim, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet Goyim, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet Goyim, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il reste un seul homme. Amen. Voilà, aujourd'hui, les mamans sont à l'honneur. Alors j'ai lu cette petite anecdote d'un enfant qui avait mis une petite note sur le frigo de sa maman. Alors quand la maman préparait le repas, elle a vu la petite note et l'enfant avait écrit avec sa main, avec son écriture d'enfant, « Alors pour avoir sorti les poubelles, 1 euro. Pour avoir débarrassé la table, 1 euro. Pour avoir poussé le caddie au supermarché, 1 euro. » Puis la liste, elle était longue. Alors la maman est sortie dans le jardin et elle a fait venir son petit enfant. Et l'enfant, elle dit à l'enfant, ben, « J'ai vu la note que tu as écrite sur le frigo. » Alors l'enfant, il baissait les yeux comme ça. Il n'osait pas regarder sa maman. Et elle lui dit, « Tu sais, mon chéri, quand j'ai veillé sur toi pendant toutes les nuits où tu étais malade, c'est gratuit. Quand je t'ai amené à l'hôpital parce que tu t'étais blessé, c'est gratuit. Quand je t'ai fait la nourriture, quand j'ai lavé ton linge et que j'ai pris soin de toi, c'est gratuit. » Et puis là, la liste, elle continue. Et puis, elle finit en disant, « Et une dernière chose, quand je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort en te donnant naissance, c'est gratuit. » Et puis, l'enfant est reparti jouer avec ses camarades. Et lorsque le soir est venu, la maman regarde sur le frigo, la note avait été barrée et l'enfant avait marqué, « Tout a été payé par ma maman. » Voilà. C'est une belle anecdote qui honore les mamans qui prennent tant soin de leurs enfants, et elles ont bien raison. Et c'est pourquoi j'ai pensé à Déborah. Déborah qui est une mère en Israël. Et Déborah, c'est une femme tout à fait extraordinaire, remarquable, et c'est même dans ce texte une femme d'exception, puisque c'est la seule femme qui a été juge dans cette période chaotique où il y avait beaucoup de gens qui s'éloignaient du Seigneur et Dieu suscitait des juges. Alors, cette femme, lorsque le peuple a été attaqué, menacé par Jabin, on l'a lu dans ce récit, eh bien, elle s'est levée comme une mère, c'est-à-dire elle n'est pas restée insensible. Elle n'est pas restée les bras ballants, mais elle s'est mobilisée et elle a agi. Alors, c'est un petit peu comme si on touche à nos enfants, il y a une réaction, un peu comme une ours qui va se mettre en furie si on touche à ses oursons. Le premier point, c'est les versets 1 à 3, qui nous parlent de la situation très instable qui existait en Israël à cette époque. D'abord, il faut savoir que à cette époque-là, il y avait le chaos, il y avait toutes sortes d'invasions qui se perpétraient. En fait, le peuple d'Israël souvent était attaqué et à chaque fois, il cherchait, il criait à Dieu, à chaque fois, il se repentait de leurs péchés, à chaque fois, Dieu suscitait un libérateur et à chaque fois, après, il y avait une période de paix. Mais pendant la période de paix, qu'est-ce qui se passait à chaque fois ? Eh bien, petit à petit, le peuple baissait au niveau de sa communion avec Dieu, ne prenait plus le temps de prier, en fait, rétrogradait. Et c'est pourquoi la situation redevenait chaotique. Et vous avez au verset 1 cette caractéristique. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Éhud venait de mourir, on l'a lu dans ce texte. Éhud, c'était donc le juge précédent, un des juges précédents qui avait permis un temps de paix de 40 années de repos. Et pendant ces années de repos, le peuple s'était assoupi, le peuple s'était éloigné de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que le péché est profondément attaché au cœur de l'homme. Et que même si nous voulons faire le bien, nous voyons bien qu'il y a une force, une puissance qui est attachée à nous, dont nous avons besoin d'être libérés. Si nous ne veillons pas, si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne sommes pas, j'allais dire, violents avec nos pensées pour les diriger vers les bonnes choses, avec nos yeux, avec nos oreilles, bien petit à petit, le péché va s'installer un petit peu comme une plante, va prendre racine et va se développer dans notre cœur. On sait que Éhud avait fait place nette et que maintenant c'était un temps favorable. Mais on ne le réalise pas parce que le sommeil, on ne le voit pas arriver. Et lorsque on s'endort, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, quand il est dit que dans le Nouveau Testament, Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre et puis en écoutant le long discours de Paul, qui était très tard le soir, le sommeil a gagné son esprit, il s'est endormi, mais il n'a pas vu le sommeil arriver, si bien que il est resté assis sur le bord de la fenêtre et dans son sommeil, il est tombé en arrière, du mauvais côté. Et ça nous montre que le sommeil va venir doucement, tranquillement. On ne le voit pas arriver. Et puis, quand Eutychus est tombé, il était mort. Heureusement que Paul a prié pour qu'il soit complètement relevé. Alors, certains chrétiens sont comme cela. Petit à petit, un petit peu comme le peuple d'Israël, ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Ils laissent rentrer dans leur cœur toutes sortes de mauvaises pensées, mauvaises actions, et petit à petit, c'est le baisse spirituel, on n'a plus envie de prier, de lire la parole, on n'a plus envie de se réunir ensemble, etc. Et de même que certains ont été jusqu'à perdre la foi, et le confort, et le bien-être, et les avantages que le monde propose. On l'a tous connu, des chrétiens qui étaient zélés, des chrétiens qui étaient engagés, des chrétiens qui étaient sérieux avec les choses de Dieu. Mais vous savez que le diable, il a su comment les manipuler, leur donner du confort, de l'aisance. Ils ont commencé à vivre un peu éloignés des choses de Dieu. Et ça s'est fait progressivement jusqu'à parfois les gagner complètement. Et c'est là où nous devons réagir et ne pas attendre, frères et sœurs, parce que l'ennemi, il agit dans l'obscurité, il agit avec le temps et il fait son œuvre et ses dégâts. Je dirais que la victoire n'est pas automatique. C'est vrai que nous chantons, oui, nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus, c'est une réalité. Mais la victoire, elle est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous disons le nom de Jésus que nous sommes vainqueurs, mais parce que notre vie est soumise à la parole de Dieu. Tout à l'heure, on entendait ce témoignage de ces 7 fils de Sceva qui ont chassé un esprit malin sur un homme au nom de Jésus que Paul prêche, sort de cet homme. Oui, mais ce n'était pas la formule au nom de Jésus qui agissait ici, parce que les 7 fils de Sceva, ils n'avaient pas une vie en communion avec Dieu. Ils n'avaient pas une vie droite, ils n'avaient pas une vie d'obéissance, ils n'étaient pas centrés sur les choses de Dieu. Donc, ils pouvaient dire « Jésus est vainqueur, Jésus est Seigneur, tout ce que vous voulez ». Si notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et donc, la formule « au nom de Jésus » n'a pas été agissante à ce moment-là. Donc, il nous faut la foi, il nous faut l'obéissance et il nous faut nous soumettre à la pensée de Dieu. Alors, la victoire n'est pas automatique. Ici, nous avons donc un homme qui se lève, qui s'appelle Jabin. C'est au verset 3. Ce Jabin, c'était un chef des Cananéens, un roi de Canaan, en fait. Alors, il faut savoir que cet ennemi était à l'intérieur du peuple, il était cananéen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le peuple d'Israël est rentré en Canaan, ils avaient reçu l'ordre de Dieu de chasser toutes les nations qui y étaient et de prendre possession des territoires. Sauf qu'il y a des zones qui n'ont pas évacué et dont Jabin fait partie. Et vous voyez qu'un jour ou l'autre, ce qu'on n'a pas fait, ça ressort. Ça ressort ici dans le livre des juges. Mais le problème, il remonte au temps, au début du livre des juges, au temps de la conquête, lorsque la conquête n'a pas été faite dans sa totalité. Et on va voir que le problème va perdurer. Parce que quand on ne fait pas ce que Dieu dit, on va le faire à 90%, eh bien, il y a les 10% un jour ou l'autre qui vont se révéler être nocifs pour notre âme. Donc, c'est du milieu du pays, de l'intérieur, que l'ennemi va surgir. C'est aussi la seule fois dans le livre des Justes, parce que la plupart des attaquants, ils venaient de l'extérieur d'Israël. Mais là, c'est du sein de Canaan que l'ennemi va surgir. Ça veut dire que l'ennemi, il peut s'infiltrer aussi à l'intérieur. S'il n'a pas été évacué, s'il n'a pas été débusqué, s'il n'a pas été éliminé, eh bien, il s'installe dans des zones de résistance et de l'intérieur, il va faire ses dégâts. Et puis, c'est un ennemi puissant, la Bible dit, qu'il avait 900 chars par rapport à Israël, donc c'était une armée considérable. C'est au verset 3, 900 chars de fer, ce qui montre ici une puissance militaire largement supérieure à Israël. Et c'est souvent le cas. Bon, si vous voulez un parallèle moderne, on dira que c'est l'équivalent comme les tanks d'aujourd'hui. Les chars de fer, c'est donc des armes de destruction puissantes. Et il y avait zéro char du côté du peuple d'Israël. Ce n'étaient pas tellement des grands combattants. Alors, 900 chars contre zéro char. Et souvent, j'ai remarqué que notre ennemi ou les difficultés en face de nous sont beaucoup plus puissantes en réalité que nous ne le sommes. Mais Dieu le veut comme cela, parce que Dieu veut nous apprendre à combattre par la foi, non pas avec les armes, les chars, c'est pas avec les chevaux, c'est pas avec les arcs, avec les lances, mais il leur dit, c'est avec la foi dans le nom de l'Éternel. Donc il veut nous apprendre cette dimension, c'est pourquoi la plupart du temps, les ennemis ont une supériorité à la fois numérique, à la fois en armes, en quantité, ils sont puissant, et puis on sait par l'histoire que ces chars, ils avaient des lames sur les côtés pour faire des destructions sur les fantassins. C'était donc des armes puissantes. Jabin, donc, c'est le chef de l'armée, c'est le roi de cette localité en Canaan, qui, pendant 20 ans, oppressait le peuple et le poussait à la défaite. C'est une durée considérable. Pourquoi? Mais la Bible le dit pourquoi. Parce que Dieu, c'est au verset 2, en fait, c'est Dieu qui les avait mis entre les mains de Jabin entre les mains de cet ennemi. Pourquoi ? Parce que ce peuple-là, il était rebelle à la voix de Dieu et c'était comme si Dieu utilisait cet ennemi pour les faire revenir à lui. Et parfois, quand nous nous détournons du Seigneur, eh bien, il y a toutes sortes de difficultés qui sont suscitées, un petit peu comme, vous savez, cette fameuse tempête qui arrive à Jonas, mais ce n'est pas le diable qui suscite cette tempête, c'est Dieu qui l'envoie pour arrêter Jonas dans sa course à l'opposé de la volonté de Dieu. Et il va être jeté par-dessus bord, la tempête va s'apaiser, mais en fait, c'est Dieu qui dirige toutes ces choses. Et parfois, les épreuves, comme ici c'est le cas, l'ennemi, en fait, a été suscité, permis par Dieu, parce que le peuple, voyez-vous, a baissé. Et quelquefois, il faut un électrochoc, qu'il se ressaisisse. Alors, j'ai noté au psaume 32, un verset qui dit ceci. Quand on voit ici David qui plie sous le poids de son péché, mais qui résiste à se repentir. « Tant que je me suis tu, dit David, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je n'ai pas confessé mon péché. Un peu comme le peuple d'Israël, ici, il ne voulait pas demander pardon pour leur égarement, pour leur faute, ils se sont entêtés. Il y a une certaine forme d'aveuglement, d'orgueil aussi, quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, on s'entête, on n'écoute rien, mais on va subir les conséquences de nos péchés. Il y a comme ça un berger qui explique cela, un berger dans la haute Écosse. Il y a des montagnes assez escarpées, et lorsque des brebis veulent aller dans des coins un peu reculés, un peu dangereux, parce qu'il y a de l'herbe verte, attrayante. Alors les brebis, elles sautent de roche en roche, elles arrivent à des endroits difficiles, et là, eh bien, elles vont brouter l'herbe. Mais le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus redescendre. Alors que fait le berger dans cette situation ? Eh bien, il explique ceci, c'est qu'il va les laisser là, jusqu'à temps qu'elles aient brouté toute l'herbe à leur possibilité, donc ça peut durer plusieurs jours. Et une fois qu'elles sont épuisées, qu'elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient, qu'elles n'ont plus aucun recours, alors à ce moment-là, il peut venir les chercher, parce qu'il dit s'il venait avant, elles risqueraient de s'affoler, de s'agiter, et même de se jeter dans le vide. Donc il attend qu'elles soient complètement épuisées, il peut les mettre sur ses épaules et les redescendre tranquillement. Mais parfois, c'est un petit peu notre situation, où Dieu attend qu'on ait épuisé toutes nos ressources, qu'on ait essayé toutes nos possibilités humaines, et qu'à ce moment-là, Dieu puisse intervenir dans sa grâce. Pourquoi ? Parce qu'avant, nous n'écoutons pas, nous ne voulons pas faire sa volonté, nous sommes rebelles, nous avons décidé d'aller ici, nous avons décidé d'aller là, alors Dieu attendra que nous ayons terminé. Mais, voyez au verset 3, la chose peut se faire ici au verset 3. « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Et c'est quand il y a ce cri, c'est-à-dire cette repentance, cette demande de pardon. « Seigneur, nous voyons que nous sommes dans une situation sans issue. Nous avons péché, nous nous sommes égarés, nous te demandons pardon. » Il crie à l'Éternel, en fait, c'est une repentance. C'est justement à partir de ce moment-là que Dieu va pouvoir maintenant intervenir. Et qu'est-ce que fait Dieu quand on se repent ? Il suscite un libérateur, ça va être donc Déborah, accompagnée de Barak. La repentance, plus on tarde, plus on aura des souffrances, des difficultés. Là, ça faisait 20 ans, mais combien des fois il y a des gens qui attendent 30 ans, 40 ans. Ils ne veulent pas se repentir, ils résistent à Dieu. Eh bien, Dieu les laissera dans cette situation. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'épanouir, ils ne peuvent pas être heureux à cause de leur décision de ne pas se repentir. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, dans l'Épître aux Hébreux, « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » C'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Ça concerne peut-être quelqu'un ce matin qui s'est rebellé, qui s'est endurci, qui s'est éloigné de Dieu. On peut être présent dans l'Église, mais éloigné de Dieu, vous comprenez. Dans notre esprit, on est à mille lieues, mais on est là, on peut chanter, on peut prier. Mais dans notre esprit, on n'est pas là où Dieu veut. Donc, que Dieu nous fasse grâce. On peut demander pardon avec sincérité, un changement de cœur. Le deuxième point, c'est les versets 4 à 13. Après avoir brosser le tableau de la difficulté des enfants d'Israël dans laquelle ils sont, on voit qu'il va susciter Déborah tout d'abord, et ensuite Barak. Dieu va susciter Déborah. Déborah qui signifie abeille. Et les abeilles dans la Bible, ce sont des véritables armes de combat. Elles fondent sur l'ennemi pour le mettre en déroute. Alors merci Seigneur pour les abeilles spirituelles qui sont des vaillantes guerrières du Seigneur et qui, par leur prière, elles mettent l'ennemi en déroute. Heureusement qu'on a des abeilles dans l'Église, parce que ce sont des femmes de prière, ce sont des femmes de combat, ce sont des femmes d'intercession. Un jour, on était au jeûne et prière un lundi midi, et en voyant arriver les croyants pour prier, il y a un frère qui a dit « Ah, voilà les GIs du Seigneur ». Mais c'est nous les GIs du Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes les combattants du Seigneur. Alors regardez autour de vous, vous avez des GIs ce matin. On n'est pas venu en tenue de combat, mais la tenue, elle est spirituelle. Elle n'est pas visible dans nos vêtements, mais vous voyez, le monde spirituel le voit, cela. Si on est dans la foi, si on est dans le combat, le monde spirituel le voit. Et Déborah, elle était revêtue de la puissance du Saint-Esprit. C'était une femme. Mais voyez que Dieu l'a utilisée d'une manière puissante. C'était une prophétesse. La Bible dit au verset 4, la femme Déborah, c'était une prophétesse donc qui avait l'onction et les révélations du Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Ça s'appelle l'inspiration, c'est-à-dire c'est facile de dire ce que l'on pense, mais c'est plus difficile de cerner ce que Dieu pense et de le transmettre dans des situations. Parce que ce n'est pas facile d'être prophète, dans le sens où le prophète ne va pas dire ce que les gens veulent entendre, mais il va dire la parole de Dieu. Et souvent, les prophètes ne sont pas très appréciés, c'était vrai déjà dans l'Ancien Testament, mais parce qu'ils remettent en question, parce qu'ils pointent du doigt le péché, parce qu'ils montrent que la voix de Dieu n'est pas celle que l'on pensait dans bien des circonstances. Donc, les prophètes, ce n'est pas facile. Déborah était prophétesse et l'inspiration qu'elle avait lui permettait de donner la pensée de Dieu. Et autre chose importante, elle était juge, au verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, la fin du verset 4. Elle était juge en Israël. C'est la seule femme, je l'ai dit, qui a eu ce statut de juge, c'est-à-dire de responsable dans ces temps où il y avait beaucoup de juges. Il y a eu 12 juges, c'était que des hommes. Et voilà, une femme s'est levée en Israël. Peut-être les gens pouvaient dire que c'est impossible qu'une femme puisse assumer une charge pareille. Certains, peut-être, lui ont dit qu'il faudrait arrêter, l'ont critiqué, parce que, vous savez, quand vous êtes tout seul comme ça, ce n'est pas facile. Tout le monde braquait ses regards. La moindre faille, attention. Mais vous savez, quand vous voulez servir le Seigneur, il y en a qui ne vous encourageront pas. Il y en a qui ont un ministère, mais c'est le ministère du découragement. Ils vont vous expliquer en 5 bonnes raisons pour lesquelles c'est impossible. C'est impossible, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas le faire. Mais ça, ce n'est pas un ministère qui vient de Dieu. Ça, c'est un ministère que les hommes ont naturellement. C'est le ministère « je ne crois que ce que je vois ». Voilà. Je suis limité dans mon raisonnement, dans mes pensées. Alors, si vous côtoyez des gens qui ont cet état d'esprit, le risque, c'est que ça contamine votre esprit et que vous deveniez vous-même découragé. Alors, Déborah, ce qui est important, peut-être qu'elle a eu des combats dans sa position de juge, parce que certains devaient lui faire remarquer. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'elle avait l'approbation de Dieu sur sa vie et sur son ministère. Et ça n'a pas été remis en question, parce que les gens, la Bible le dit, les gens, les enfants d'Israël, montaient vers elle pour être jugés. Donc, ils reconnaissaient que Dieu avait donné à Déborah cette capacité. Ce n'était pas une capacité naturelle, c'était la capacité spirituelle de donner des paroles inspirées. Le peuple avait confiance en elle. Il y a le psaume 109, 28 qui dit ceci. « S'ils maudissent, si les gens maudissent, toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. » Ah, il y a peut-être des gens qui disent du mal de vous. Il y a peut-être des gens qui ont prononcé des paroles négatives, c'est-à-dire s'ils maudissent. Mais qu'est-ce que dit la parole ? Dieu, toi, tu bénis. Et si Dieu bénit, vous savez, ils peuvent maudire Mais vous êtes dans la bénédiction de Dieu, vous êtes gardé dans la présence de Dieu. Et ça, c'était Déborah, elle était bénie. Et les paroles de foi qu'elle a, ce n'est pas un hasard. Les versets 6 à 8, vous voyez la différence entre Barak et Déborah maintenant. Déborah a des paroles de foi dans une situation de combat, dans une situation de danger. Elle va donner les instructions à Barak, qui est quand même le chef des armées. Barak, ce n'est pas un soldat ordinaire. Barak, c'est quand même, on pourrait dire, c'est l'équivalent du général. C'est le chef des armées du pays. Donc, c'est un homme de combat, un homme de guerre, un homme habitué à en découdre avec l'ennemi. Certainement que Barak, je ne sais pas, moi, je l'imagine assez, entre guillemets, assez baraqué, hein, assez, comme son nom l'indique. Barak, je le vois, voilà, quand il arrive, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, il est musclé, mais il a peur devant la puissance ennemie. C'est intéressant parce que son nom signifie aussi éclair, éclair, la foudre. Quand il arrive, attention, ça va tomber. Et pourtant, ce n'est pas un foudre de guerre. Il n'est pas vaillant pour le combat. Il a peur et il ne veut pas aller si Déborah ne vient pas avec lui. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle qu'il y a des hommes qui ne sont pas à la hauteur de la mission que Dieu leur a confiée. Et c'est vrai aussi dans les foyers. Et souvent, quand je discute avec des couples, je demande aux frères et sœurs, est-ce que vous priez ensemble? Et souvent, la réponse, c'est pas souvent. Ou alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas prié ensemble. Mais c'est important que le couple y prie ensemble. Mais qui est-ce qui va impulser le temps spirituel dans le foyer? Ben, c'est le mari. C'est l'homme qui est habilité en tant que sacrificateur dans sa maison, en tant que chrétien, de faire ce moment, de conduire ce temps spirituel et de l'impulser, de le favoriser, de le prendre au sérieux, de lire la parole de Dieu. Eh bien, il y a des hommes qui ne tiennent pas leur rang. Et ça, c'est dommage. Eh bien, ça me fait penser à Barak. Barak, qui est appelé général, qui est appelé un éclair, ça c'est ce que Dieu veut pour lui, eh bien, en réalité, il est timoré, il a peur, il ne prend pas les choses en main, il tourne autour du pot en disant, moi, bon, je veux bien y aller, mais bon, il faut que tu viennes avec nous, etc. Donc, il n'a pas réalisé quelle est sa position, quelle est sa place en Christ. Alors ça, c'est vrai quand on est à demi, un pied avec le Seigneur, un pied avec le monde. Et l'ennemi va trouver ici une brèche pour saper les familles, pour les détruire de l'intérieur. C'est pour ça, les frères, réagissons pour ne pas être comme Barak, mais être des hommes spirituels, des hommes qui tiennent bon dans l'épreuve et qui prennent leurs responsabilités. Alors Barak décide qu'il n'ira pas sans Déborah. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien, Barak, en fait, il est en train d'exprimer ce principe qui dit, bon, il y a les paroles de Dieu, mais ça ne me suffit pas, je veux que tu viennes avec moi. Mais la parole de Dieu devrait nous suffire, frères et sœurs. Parce que ce que Déborah a dit, c'est à Barak, tu peux y aller, l'Éternel est avec toi, tu seras vainqueur. Donc il avait l'approbation et il avait la direction. Il n'avait plus qu'à obéir. Mais quand la parole de Dieu ne nous suffit plus, quand nous marchons par la vue et non par la foi, alors nous passons à côté de bien des bénédiction. Et sa piété est faible parce qu'il n'a pas développé un caractère spirituel de serviteur. Vous voyez, servir le Seigneur, c'est une chose, mais développer un caractère de serviteur, c'est autre chose. Alors, Barak avait le titre, il était chef des armées, mais il n'avait pas le caractère, il n'avait pas l'ambition, il n'avait pas la force spirituelle. Mais Dieu nous transforme pour servir efficacement. J'ai noté ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 13. Vous voyez, Paul dit, il parle à des chrétiens, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Et là, il s'adresse à ces baraques-là, ces hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités, fortifiez-vous. Soyez des hommes, ça veut dire soyez à la hauteur de ce que Dieu attend de vous, soyez fermes. Parce que l'homme a besoin, plutôt parce que l'Église a besoin d'hommes spirituels. C'est vrai dans les foyers, je le disais tout à l'heure, il faut que l'homme prenne les choses en main sur le plan spirituel. Hein, souvent, ils ont démissionné. Alors, c'est les femmes qui, voilà, gloire à Dieu, qui le font. Mais spirituellement, l'homme a sa responsabilité ici d'être le conducteur spirituel. Et quand il a démissionné, quand il n'a pas de piété, ou quand sa piété est inférieure à celle de son épouse, il y a un problème. Il doit revenir à un niveau spirituel pour être en adéquation avec la parole de Dieu. Avoir un cœur d'intercesseur, c'est-à-dire être des hommes spirituels, des hommes forts dans les combats, des hommes qui sont là dans la prière, dans l'intercession, dans les combats, dans les services, des hommes fidèles. Sans cela, l'Église, finalement, est fragilisée. Nous avons besoin les uns des autres, et bien sûr, chacun à sa place, les hommes comme les femmes. Et nous voyons que Déborah va faire une prophétie sur Barak et lui dire, verset 9, ben, « J'irai avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches. L'Éternel livrera Sisera, c'est-à-dire le roi des Cananéens, entre les mains d'une femme. » Voilà. La gloire reviendra à une femme. Et on sait qui est cette femme, en lisant la suite à partir du verset 17, c'est Jaël. Jaël, chez qui Sisera, après la déroute du peuple de Canaan, s'est caché. Jaël, d'ailleurs, dans le nom signifie, alors, c'est un nom, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Jaël ce matin, mais Jaël, ça signifie chèvre sauvage. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un nom qui n'est pas facile à porter quand même pour une femme. Chèvre sauvage, donc on a des abeilles, gloire à Dieu, et on a quelquefois des chèvres sauvages aussi. Donc la femme s'appelait chèvre sauvage, elle le cacha sous une couverture, elle prit un pieu, et pendant qu'il dormait, paf, elle lui a enfoncé dans la tempe. Elle était quand même courageuse, cette femme. Donc que Dieu soit béni aussi pour les chèvres sauvages, gloire à Dieu. Et puis au verset 14 à 16, on termine avec la victoire qui appartient à l'Éternel. Verset 14, Déborah dit à Barak, « Maintenant, c'est le jour. C'est le jour. Lève-toi. Voici l'Éternel livre Sisera entre tes mains. » Barak va partir au combat avec l'assurance. Et bien sûr, il va emporter aussi, Déborah sera du convoi. Mais cela n'empêche pas qu'il y aura toujours un combat à mener, même si vous avez les promesses de Dieu. Même si vous avez ici, Déborah était là, il fallait quand même aller au combat. Et c'est là, finalement, que ça va se jouer. Parce que si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Mais si nous ne faisons rien, eh bien, on peut avoir les promesses de Dieu, on peut avoir Déborah avec nous, on peut avoir tous les éléments, mais s'il n'y a pas l'action, il n'y a pas l'action de Dieu non plus. En fait, l'action de Dieu va se mettre en place au moment où le combat va prendre place. Alors, il y a trois choses que Déborah promet. Premièrement, l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Vous voyez, c'est au présent, c'est fait. C'est maintenant, voilà.
Sisera, l'ennemi du peuple d'Israël, va être détruit. C'est une promesse, c'est une certitude. Et ça me fait penser que lorsqu'on touche à un enfant de Dieu, vous savez, on a notre Père qui veille sur chacun de nous. Il y a quelques années, j'étais au parc avec mes trois enfants, et quand j'étais au parc, ils étaient petits, j'avais toujours un œil sur chacun d'eux. J'étais dans le parc, mais je surveillais, j'étais là, mais je regardais aussi là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et dès derrière les bosquets, il y a un chien qui a sursauté, mais un chien méchant. Un chien qui a fondu sur ma fille. Et comme j'étais donc à côté, je me suis interposé entre le chien et ma fille, mais le chien, il ne pouvait pas toucher ma fille. Pourquoi ? Parce que je veille sur mes enfants. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes, frères et sœurs. C'est que nous sommes sous les yeux du Seigneur, et s'il y a quelqu'un qui vient rôder auprès d'un de ses enfants, l'Éternel envoie un ange, l'Éternel manifeste sa grâce, et il agit en faveur de ses enfants, parce qu'il veille sur nous, l'Éternel veille sur nous. Il livrera Sisera entre tes mains, l'Éternel marche devant toi. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, dit Dieu. Nous n'avons rien à craindre. L'ennemi est plus puissant, oui. Ils ont 900 chars de fer, oui. Mais ne crains rien, car je suis avec toi. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de voir les difficultés et en même temps de dire ne crains rien. Parce que nos yeux nous disent, « Ouh là 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 là, le combat, ça va être, vous allez avoir des difficultés, ça va être difficile, vous n'allez pas vous en sortir. » Ça, c'est nos yeux. Mais notre cœur nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Tu vois combien l'ennemi est puissant, tu vois les difficultés, tu vois que là, les portes se ferment. « Mais je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà comment Dieu agit. Et puis, troisièmement, il met en déroute Sisera et toute son armée. Ah, il y a une belle leçon ici, pour terminer. Voyez, le peuple d'Israël, il se disait, ça y est, ça va être difficile, 900 chars, nous on en a zéro, on ne va pas s'en sortir. Et pourtant, Dieu a fait tomber de la pluie, vous pouvez le voir ça en lisant le cantique de Déborah au chapitre 5. Dieu a ouvert les cieux, et il a fait tomber de la pluie dans la plaine, et la plaine s'est transformée en boue, et les chars de fer, ils n'ont pas pu bouger. Ils ont été piégés. Et ça... Alors du coup, l'armée d'Israël a pu fondre sur l'ennemi et les mettre en pièces parce qu'ils ont été décontenancés, ils ont dû sortir des chars dans la boue. Ils ont été, finalement, ils ont été déconfits par l'armée d'Israël. La leçon est celle-ci. Parce que c'est par ce que nous craignons le plus. Alors ici, dans ce cas de figure, c'était... des chars de fer. Donc, ce qui devait détruire le peuple d'Israël, finalement, va devenir un instrument de défaite pour le peuple ennemi. C'est-à-dire que Dieu a changé le mal en bien pour les enfants d'Israël. Mais jamais les enfants d'Israël auraient pu triompher de ces chars de fer. Ça n'était pas possible. Mais il y a un autre paramètre, c'est que Dieu est avec nous et il combat pour nous. Sisera et sa troupe ont été éliminée. Déborah, une femme de Dieu remarquable, à une époque de grande confusion, elle s'est levée comme une mère en Israël. Et elle n'a pas eu peur, contrairement à Barak. Barak qui aurait dû saisir les paroles spirituelles et aller au combat. Non, Déborah n'avait pas baissé les bras. Déborah a donné des paroles de victoire à un moment où le peuple était découragé. Elle laisse un témoignage de l'onction qu'elle avait reçue du Saint-Esprit pour les prophéties pour être juge en Israël. Elle laisse un témoignage de son courage, elle laisse un témoignage de sa foi remarquable, de sa sagesse, et pour nous, c'est donc un modèle, c'est un exemple, c'est une femme spirituelle, bien que Dieu bénisse nos sœurs et toutes les mamans à cette occasion. On va prier quelques instants le Seigneur. Merci encore pour ta parole. Nous croyons que tu es ce Dieu qui suscite, qui appelle, qui qualifie, et qui équipe encore aujourd'hui. Merci pour l'exemple de Déborah qui a été comme cette mère en Israël qui a réagi alors que le peuple était attaqué, qui n'a pas laissé de brèche s'installer, qui a été une femme de prière remarquable, une femme de foi. Et nous te prions pour qu'encore aujourd'hui des Déborahs se lèvent dans les églises avec la foi, avec l'onction, avec la piété, avec les paroles et révélations qui viennent d'en haut. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Viens visiter encore notre assemblée, viens visiter notre Église. Bénis aussi les hommes et qualifie chacun pour que tous prennent leur part de responsabilité, leur part de responsabilité spirituelle dans le grand combat qui est là devant nous. Et nous te disons à toi toute la gloire. Amen.